Nous allons procéder avec la suite du programme et j'ai le plaisir maintenant d'inviter Madame Elisabeth Fontan du Musée du Louvre qui va nous parler justement de ces figures intéressantes mais un peu inquiétantes de l'archéologie phénicienne que sont les Durighello, père et fils. Fils au pluriel en plus, et qui ont joué un rôle très important dans le développement de la discipline, mais encore une fois, entre deux mondes, étaient-ce vraiment des pionniers ou des braconniers? Nous le saurons sous peu. J'invite Madame Fontan.
Le nom de Durighello est lié à la recherche archéologique en Phénicie, et plus particulièrement à Sidon, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il apparaît souvent dans les publications, dans les archives concernant la formation des collections des musées, ainsi que dans les registres d'entrée, et particulièrement dans les registres d'entrée du musée du Louvre. Cependant, un certain flou règne sur l'identité des personnages concernés. Je voudrais donc aujourd'hui vous présenter rapidement les trois membres de cette famille levantine qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre dans la découverte de l'antique Sidon. Il s'agit d'Alphonse, le père, et de deux de ses fils, Edmond et Joseph-Ange. Commençons donc par Alphonse Durighello. Donc, en quelques mots, lui, c'est l'agent consulaire de la France, le personnage officiel, le collaborateur de Renan, et comme l'a sûrement montré Hélène Lemot ce matin, l'inventeur du sarcophage d'Eshmounazor. Alphonse Mathieu Durighello est né à Alep le 13 mai 1822. Son père, Angelo, était originaire de Venise. Et il est venu se fixer à Alep au début du XIXe siècle. Il était au service de l'Espagne, du Royaume d'Espagne, d'abord comme vice-consul, puis consul général, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1841. Et de ce fait, il a été naturalisé espagnol. Comme beaucoup d'autres consuls de l'époque, il a exercé parallèlement, les fonctions de consul pour d'autres États, le royaume de Norvège-Suède en 1815-1824, les États-Unis d'Amérique en 1835-1840, et aussi, de façon intérimaire, il a été consul de France de 1832 à 1834. Son fils Alphonse l'a suivi dans la carrière consulaire, et en 1841, il est nommé agent consulaire, comme son père, à l'ambassade d'Espagne à Alep. En 1852, cependant, après un séjour en France, qui est documenté, il devient agent consulaire, ou droquement, parce que je ne sais pas trop, au consulat de France à Alep. En décembre 1842, il avait épousé aussi une Française, Céleste Bettera, dont il eut 12 enfants. 7 sont parvenus à l'âge adulte, 4 filles et 3 garçons, dont on parlera tout à l'heure. À la fin de 1853, Alphonse est nommé agent consulaire à Saïda, où il arrive le 29 décembre, accompagné de son épouse et de leurs 3 filles aînées. Il est chargé de la gestion du caravansérail français, que vous avez à droite, le Ranelfrange, où se trouve le consulat, mais aussi le couvent des franciscains, l'église de rite latin, le couvent et l'école des sœurs de Saint-Joseph. Vous voyez l'emplacement qui est, je pense ici, avec mes lunettes, je ne vois rien, il est là. Voilà, cet énorme bâtiment du consulat. Alors, en tant qu'agent consulaire, il n'est pas diplomate, donc pas fonctionnaire, et ne reçoit pas de salaire. Il doit donc se rémunérer sur les bénéfices du RAN. La promotion au grade de vice-consul qu'il obtient en 1859 à la demande d'Edmond de Lesseps, alors consul général à Beyrouth, est purement honorifique et ne modifie pas son statut, et ce qui explique que toute sa vie, comme tous les membres de cette famille, il a eu besoin d'argent. ce qui explique aussi leur activité de fouille. Un an après son arrivée, le 19 janvier 1855, il fait donc cette découverte sensationnelle du sarcophage d'Eshmounazov. Mais on ignore s'il avait une quelconque expérience dans la recherche des antiquités qu'il aurait pu acquérir lorsqu'il résidait à Alep. Tout ce qu'on sait en fait d'antiquités, c'est que son père, donc le consul d'Espagne, avait une belle collection de camées, intailles et monnaies. À plusieurs reprises, je reviendrai sur, je citerai, des lettres écrites par le petit-fils son fils Joseph Ange, à Salomon Reynac en 1922, Joseph Ange avait écrit ses souvenirs et les a communiqués à Salomon Reynac, qui est la première personne qui s'est intéressée à cette famille considérée souvent comme un peu sulfureuse. Donc, en 1922, Joseph Hans avait précisé à Reynac, « Lorsque mon père a été suffixé à Saïda, il a de suite entrepris de fouiller pour son compte personnel. » Alors qu'on apprend par le rapport de la commission qui avait statué sur la propriété du sarcophage qu'Alphonse travaillait pour le compte d'Aimé Perrottier, donc Drogman, chancelier du consulat de France à Beyrouth, qui est appelé dans ce document son « mandant », et qui a d'ailleurs indemnisé le propriétaire du terrain, le moufti Mustapha Effendi. On sait aussi qu'Alphonse l'avait prévenu immédiatement de la découverte, puisque Perrottier arriva dès le 21 janvier pour prendre possession du dit sarcophage. La note de Saint-Sauveur qu'Hélène Lemot a eu la gentillesse de me rappeler, et qu'elle a sûrement dû vous citer, explique sans ambiguïté comment les choses se sont passées. Alphonse fouillait pas du tout pour son compte personnel, mais il fouillait pour Perrottier et en plus à la demande de lui. Ce que j'ignore, c'est pendant combien de temps Alphonse a continué à fouiller pour Perrottier. En janvier 1857, toujours selon Saint-Sauveur, il avait trouvé dans le jardin autour de Saïda un sarcophage en plomb à figure, un en marbre et cinq en calcaire en mauvais état, sans intérêt. Donc là, je pense qu'il était toujours sous la coupe de Perrottier. Après la découverte du sarcophage d'Eshmounazov, les recherches dans la nécropole et notamment autour du terrain du Baïdar se sont intensifiées. En 1855, a été trouvé dans le caveau dit 28 un gros sarcophage égyptisant offert au Louvre en 1859 par Edmond de Pertuis, qui était le gendre de Perrottier, ainsi que son jumeau maintenant au British Museum. Cette découverte était due aussi à Alphonse. Je ne le sais pas. Je pense que si c'est lui qui l'avait trouvé, à un moment ou à l'autre, il s'en serait glorifié. Les travaux d'Ernest Renan, qui arrivent au Liban à la fin d'octobre 1860, vont transformer considérablement la situation. 1860, c'est également l'année des massacres des chrétiens par les Druzes. Et Alphonse, chrétien convaincu, s'est employé à secourir les chrétiens de la région de Saïda, comme l'indique une lettre du comte de Bentivoglio, consul général à Beyrouth, au ministre des Affaires étrangères, le 7 décembre 1860. Monsieur Alphonse Duriguello, vice-consul de France à Saïda, a fait preuve de courage, de zèle, d'activité, de grande charité, d'un désintéressement remarquable. Après avoir renvoyé sa famille à Beyrouth, il est resté seul à Saïda, au milieu d'un assez grand danger. Il a recueilli au rang de français tous les chrétiens qu'il a pu sauver par les prières, la force, la ruse et même l'argent, car il a acheté des musulmans, 20 prêtres et une cinquantaine de chrétiens. Plus de 3000 personnes dans la dernière misère et dénuement encombraient le vran français. Monsieur Duriguello était partout, distribuant du pain, des secours et des médicaments. Il s'est même privé de tout son linge et de ses habits pour couvrir les malades. Votre Excellence sait que cet agent vit sur les revenus et les loyers du vran. Monsieur Duriguello a renvoyé les locataires et donné gratis tous les logements dont il disposait. en se réservant une seule petite chambre pour lui. Et il ajoute enfin, ce qu'on entendra souvent, « Monsieur Duriello est très pauvre et a une nombreuse famille ». Duriello faisait donc partie du comité de secours pour Saïda, avec les pères jésuites, Rousseau, De Prunière et Augustin. Et une lettre du père Rousseau, datée du 24 octobre, qui ensuite a été reprise par l'abbé Lavicherie et publiée dans l'Ami de la Religion, montre qu'il continuait malgré tout ses recherches. Je vous cite. « Cela n'empêche pas M. Duriello, il l'appelle Duriello, de poursuivre ses laborieuses fouilles sur l'emplacement de l'ancienne nécropole de Sidon. Il nous a fait visiter notre course hors la ville, les nouvelles chambres sépulcrales qu'il vient de découvrir, il a trouvé dans l'une d'elles, pendant que nous étions à Saïda, deux magnifiques sarcophages parfaitement conservés. Les inscriptions qu'il porte les désignent comme ayant servi de dernière demeure à deux anciens rois du pays. Elles paraissent plus importantes encore que celles du tombeau d'Eshinounazar, c'est ainsi que c'est écrit, qui a fait tant de bruit il y a quelques années parmi nos savants. Les débuts de la collaboration avec la mission Renan ont été très difficiles. Lors du premier passage de Renan à Saïda, en novembre 1860, le vice-consul lui avait offert ses services et demandé à être attaché à la mission. Mais, en décembre 1860, alors que Renan démarrait ses recherches à Byblos, il apprit avec stupéfaction que, je cite une lettre adressée par Renan à Madame Cornu, Duriello fait exécuter, donc il a pris avec stupéfaction, pardon, que Duriello faisait exécuter à Saïda des fouilles suivies, qu'il achetait les terrains même situés près de celui de M. Perretier, qu'il mettait en vente et en quelque sorte aux enchères les objets qu'il avait trouvés. Renan prit fort mal la chose, et il s'en plaignit amèrement auprès du comte de Battivoglio, qu'il pria de faire comprendre à M. Duriello combien sa conduite était répréhensible et pourrait compromettre sa position. Renan estimait à juste titre que sa qualité d'agent français imposait à Duriello de coopérer à la mission. Mais il y avait peut-être une pointe de jalousie vis-à-vis d'un rival plus chanceux. Son jugement sur Duriello est alors très dur. Il le qualifie d'homme totalement dénué de jugement et de droiture, de roué levantin, de malheureux fou. Il fustige ses roueries d'Alépin. Renan exige alors que Duriello cesse immédiatement ses fouilles et la concurrence qu'il faisait. Ses fouilles et ses achats, et qu'il s'abstienne de vendre aucun des objets trouvés durant le temps de la mission. Mais peu après, Renan découvrit que le comte de Battivoglio finançait l'entreprise de Duriello, mais qu'il commençait quand même à se lasser des agissements un peu curieux de son associé. Finalement, une solution fut trouvée à cette fâcheuse affaire en admettant que Duriello travaillait déjà pour la mission quand il a fait la découverte des fameux sarcophages. Duriello fut donc indemnisé de ce débours et les objets découverts, notamment ces deux beaux sarcophages anthropoïdes, comme appartenant à la mission. Et les terrains furent rachetés par la suite par le ministère des Affaires étrangères. Le ton se radoucit quand Renan réussit à récupérer les deux sarcophages anthropoïdes en marbre découverts avant le début de la campagne de Sidon. Alors quand ? Sans doute avant, je pense, avant l'arrivée de Renan, avant le mois d'octobre 1860. Ces sarcophages, jugés au départ par Renan sans intérêt, car dépourvus d'inscriptions, deviennent de beaux morceaux lorsqu'ils appartiennent à la mission. Et Renan retourne sa veste, se déclare content de ce pauvre Duriello, qui a été en tout ceci plus victime que méchant. Et il précise, il me rend des services. Par la suite, Duriello semble alors avoir joué le jeu et travaillé sans réserve pour la mission. Le 3 mars 1861, au cri de « Vive la France, vive l'Empereur, vive M. Renan !», il annonçait au docteur Gaillardeau la découverte de 4 nouveaux sarcophages anthropoïdes, découverts au cours de la mission, et que vous avez ici, donc sur la page de gauche, c'est les sarcophages, 6 des sarcophages de la mission, c'est ceux qui sont exposés au RAN dans le, ce que Durighello et Renan appelaient leur musée. Donc vous voyez au centre les deux sarcophages trouvés avant l'arrivée de Renan et 4 nouveaux. Et tous ces sarcophages sont au Louvre, ainsi que 2 autres, la cuve que vous voyez sur la colonne de... la colonne de gauche de la photo, donc cette cuve sans couvercle, et ce sarcophage qui a, dont le couvercle est sculpté en forme de femme tenant un alabastre. Et il y avait également un sarcophage de plomb qui est aussi arrivé au Louvre. Donc le Louvre doit à Alphonse la majeure partie de sa collection de sarcophages sidoniens. C'est Durighello qui a conduit sur le terrain, bien sûr sous la direction de Gallardo, qui rédige le journal de fouilles, les recherches à Sidon, pendant la mission Renan, c'est-à-dire de janvier à mars 1861, mais aussi après le départ de Renan, car on avait un peu écourté la mission Renan pour se consacrer aux autres points, aux autres sites, et les fouilles ont été reprises à Sidon au printemps 1862, de mars à juin, puis très brièvement en avril 1863, et Durighello est actif dans ses recherches. Il a également mené l'exploration de Sidon et de ses environs pendant et après la mission, relevant et estampant toutes sortes d'inscriptions. Le 1er septembre 1863, Gallardo écrivait à Renan : J'achète tout ce qui est intéressant et pas cher. Durighello est notre grand pourvoyeur. Effectivement, Durighello connaissait bien le pays, il l'avait beaucoup parcouru et on savait qu'il était intéressé par les antiquités. En avril 1863, le relief fragmentaire de John Ginney est apporté à Durighello, qui en fait don à la mission, et espère trouver, en se rendant sur place, John Ginney se trouvait à 2 heures de marche à l'est de Sidon, le reste de la pierre qui avait été découverte dans les matériaux de construction d'une maison. Des recherches dans les livres d'entrée du département des Antiques ont montré que 2 couvercles de sarcophages anthropoïdes, que voici, dont on ignorait l'origine, avait été trouvé également par Durighello à Sidon, probablement après la mission. Ce dernier les céda à Félix de Sucy, qui lui-même les vendit au Louvre en 1869. Un os fragmentaire couronné d'une frise d'Uréi, ainsi que 2 inscriptions grecques et latines, faisaient partie du lot. Durighello accueillait avec grande courtoisie les voyageurs et les savants qui passaient par Sidon, et les guider dans leurs recherches. C'est le cas notamment du baron néerlandais Liklama à Nijeholde, qui fit de 1865 à 1868 un voyage en Russie, au Caucase, en Perse, dans la Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et la Turquie, au cours duquel il recueillit des antiquités pour le musée qu'il constituait. Au retour, il passa par Saïda et rencontra Alphonse Durighello, avec qui il projeta de faire des fouilles dans un avenir proche. Lors d'un second voyage au Liban en 1870, il fit une excursion à Saïda, très courte, de 4 jours, qui est relatée par son secrétaire, Ernest Massenot. Alors, je ne vous en donne que des petits bouts, mais... Nous devions, au cours du dîner, auquel était invité le vice-consul de France, M. Durighello, très versé en archéologie et connaissant depuis longtemps le sol de tous les environs, dessus et dessous. Donc nous devions arrêter quelques plans. Le jeudi suivant serait consacré à une exposition archéologique dans un terrain situé à 3 km de Saïda, étudié l'année précédente par Liklama, où il pensait qu'on pourrait pratiquer quelques fouilles heureuses. Le vice-consul voulut bien se charger de nous procurer une 20aine d'ouvriers. Et Massenot rapporte que ces fouilles dans l'ancienne nécropole, au sud-est de Saïda, on voit à peu près où ça peut être, ont permis de découvrir des fresques aux oiseaux, dont les fragments détachés par Masno lui-même se trouvent dans la collection Liklama, et plus en profondeur, trois magnifiques sarcophages en pierre, antérieurs à l'époque chrétienne et même à l'époque romaine et grecque. Mais il ajoute avec un certain dépit que ces sarcophages sont toujours entre les mains du consul d'Hollande à Beyrouth, en raison de la guerre, et surtout en raison de la loi promulguée par la porte interdisant la sortie d'antiquité de son territoire. Le baron Liklama s'étant installé à Cannes, alors voici le baron Liklama, son portrait en oriental, et un des objets qui vient de sa collection, qui a sans doute été aussi trouvé dans au moment de cette excursion à Saïda. Donc le baron Liklama s'était installé à Cannes pour des raisons de santé, pour la douceur du climat, et a fait don ensuite à la ville de sa collection, aujourd'hui au musée de la Castres. Les seuls objets de Sidon qui sont connus dans ce musée sont trois sarcophages en plomb, dont il y a un exemple ici dans une présentation plus ancienne à la mairie, et un masque d'un type bien connu en Phénicie. Les deux sont dits cédés par M. Duriguello. Donc le masque ne posait pas beaucoup de problèmes pour le faire sortir du territoire. En revanche, le sarcophage de plomb, je ne sais pas comment ça va passer. La loi sur les antiquités de 1869, donc celle qui a un peu empêché, même beaucoup empêché, Liklama de rapatrier ses sarcophages, renforcée par le nouveau règlement beaucoup plus complet du 24 mars 1874, qui exige que toute fouille soit soumise à une autorisation officielle préalable du ministère de l'Instruction publique, a mis un frein aux activités archéologiques d'Alphonse, qui de plus connaissait à cette époque des problèmes de santé. Cependant, toujours selon Joseph Ange, au retour d'Edmond en 1880, on parlerait tout à l'heure, son père avait de nouveau recommencé à faire des fouilles un peu partout à Saïda. Et vers le milieu de 1881, il avait découvert le temple où il y avait, dans une cave effondrée, les statues et les bas-reliefs du culte de Mithra. Il précise, déjà mon père avait chez lui la Vénus en bronze, on verra tout à l'heure. Avec dédicace et deux marbres du culte de Mithra que ma mère gardait sous clé. Mon père voulait acheter le terrain au nom de ma mère, car un consul de France n'avait pas le droit d'être propriétaire en Turquie. Le document en arabe est dans un dossier dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais il y avait quelques difficultés de la part d'un évêque grec catholique de Damas qui était par sa famille propriétaire d'une partie du terrain. Donc sans doute poussé par son fils Edmond, Alphonse s'est engagé à un certain moment dans les fouilles clandestines, ce qui lui a attiré de très graves ennuis, car dans les années 1882-1883, le consul à Beyrouth de l'époque patrimoniaux demande avec insistance son remplacement. Et en 1889, Alphonse finit par donner sa démission. Pour conclure sur le rôle d'Alphonse, je voudrais aussi citer des informations toujours données par Joseph-Ange Arénac. Mais c'est intéressant. Mon père connaissait tous les emplacements de l'antique Sidon. Il avait même tracé un plan indiquant tous les endroits qu'il avait fouillés ou sondés. Partout, il croyait qu'il y avait quelques monuments, temples ou nécropoles. Il avait indiqué un temple dans l'emplacement où il a découvert le culte de Mithra, que mon frère Edmond a vendu à messieurs Perrotier et Declerc. Mon père disait toujours qu'il devait avoir deux autres nécropoles importantes au bas des villages d'Elallier et de Millet-Millet, c'est assez juste, et qu'il y avait deux temples phéniciens, Astarté à Elallier et Baal à Millet-Millet. En septembre de cette année 1922, il revient à la charge. Et il dit à Salomon Arénac, « Si cela vous intéresse, je puis vous indiquer avec la plus grande précision les emplacements du temple où vous trouvez le culte de Mithra par mon père à Sidon. Sur les plans de la mission de Phénicie de Renan, ou encore mieux, si vous possédez de nouveaux plans de Sidon. Je suis certain qu'on découvrira le reste du culte de Mithra. Et en post-Christum, il revient encore à la charge, une fois de plus. Je n'indiquerai ce désemplacement qu'à vous, pas à d'autres. Malheureusement, sur cette lettre, il ne donne pas pour l'emplacement du temple de Mitra, il ne dit pas qu'il a un document marqué. Mais ce qui était intéressant et que j'ai beaucoup cherché, c'est le plan d'Alphonse indiquant les endroits où il avait fouillé. Alors, malheureusement, je n'ai jamais pu mettre la main sur ce plan, ni dans les archives de Salomorenac au Musée des Antiquités Nationales, ni dans les archives familiales mises fort aimablement à notre disposition par les petites filles de Joseph-Ange du Rigello, Dominique et Marie-Claude du Rigello. Passons maintenant à Edmond. Nous ne disposons pour ce personnage que de rares informations sur sa vie personnelle. Très peu de choses. Edmond Joseph Charles-Antoine est né peu après l'installation de ses parents à Saïda, le 7 mai 254. Il eut comme parrain Edmond de Lesseps, donc le consul général, et a fait ensuite ses études chez les jésuites. Grâce à la notice nécrologique qui a été établie par Salomorenac dans la revue archéologique de 1922, nous savons qu'il a travaillé à Constantinople, qu'on va employer à la Banque Ottomane, et plus tard à la Compagnie du Canal de Suez. Dans une lettre conservée aux archives des musées nationaux de juin 1900, Edmond indique aussi « J'ai passé une année au service du sultan Mourad ». Donc en 1880 ou 81, il est de retour à Sidon et commence sa carrière auprès de son père au Mitréum. On ne sait pas du tout s'il a été marié, s'il a eu une descendance. Rénac indique qu'il est mort dans la plus profonde misère à Élouan, en Égypte, le 18 février 1922. À notre connaissance, il n'a laissé aucun papier, rien du tout. On connaît simplement ce que dit son frère dans sa correspondance avec Rénac, plus un certain nombre d'articles parus dans des journaux, que je citerai parfois, et quelques dossiers, un aux archives nationales et aussi quelques lettres dans les archives des musées nationaux. Donc, il a commencé sa carrière, et je dirais de sa carrière de fouilleur clandestin, car c'est ce qui caractérise Edmond. Il a commencé en travaillant avec son père, en travaillant sur l'ancienne acropole de Sidon, à proximité du château de la Terre, et ils ont trouvé ce qu'on appelle le fameux Mitréum. Edmond a donné une description rocambolesque de ce sanctuaire de Mitra, sans doute inviolé, dans un article bien souvent cité, qui est paru dans le Bosphore égyptien le 19 août 1887. Malheureusement, nul autre que les fouilleurs n'a pu voir ce monument. Il ne nous reste aujourd'hui que 8 statues et un relief conservé aujourd'hui au Louvre. Et cette fouille du Mitréum a créé une brouille très grave dans la famille du Rigello. En effet, après avoir découvert trois statues, Alphonse était venu à Paris en 1882. Il avait à s'occuper de se faire naturaliser français, ce qui est fait en 1882, et peut-être de chercher un mieux rémunéré, et aussi de négocier avec le Louvre l'achat d'un certain nombre d'objets. Je suppose qu'il s'agit des trois statues, les deux marbres, je ne peux pas les identifier, et l'Aphrodite en bronze, que sa femme tenait sous clé. Pendant ce temps, Edmond a poursuivi la fouille tout seul et a vendu d'abord à Louis de Clercq, d'abord à Perrottier pour Louis de Clercq les deux statues en marbre et la Vénus en bronze, et ensuite directement à de Clercq, il est venu en France pour ça, toutes les autres statues de marbre. Alors, toutes les statues que je vous montrais tout à l'heure sont rentrées ensuite au Louvre à la suite de la donation du comte Henri de Boisgelin en 1967. Alors, une question se pose, je vous ai montré les photos du Mitréum sans la fameuse Aphrodite en bronze. On ne sait pas du tout si elle en fait partie ou pas, et on l'inclut en suivant les indications que donne Joseph Ange. Edmond a relaté ses fouilles dans un article paru sous forme de feuilleton au début du mois de septembre dans le journal L'Univers. Il décrit 11 pièces, ce qui est inexact, parce qu'il y avait au maximum, si l'on ajoute la statue de bronze, 10 pièces. Mais il cite aussi, et il enjolive là bien les choses, une Vénus en marbre avec des bracelets en or au bras et un collier d'émeraude. Il ajoute aussi que les porteurs de haches ont des armes en ivoire, ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la description qu'il fait de sa méthode de fouille, qui est très révélatrice. Je me plaisais à passer presque toutes mes nuits au sein des décombres avec mes fidèles ouvriers, toujours des ouvriers musulmans. Ainsi nous arrive-t-il fréquemment, dans mes fouilles clandestines et souterraines, de courir le risque d'être écrasés sous les éboulements. Mais rien n'ébranle notre courage. À peine échappé au danger, nous poursuivons les fouilles avec une nouvelle ardeur. Sur cette lettre qui est conservée dans un dossier des archives nationales, qui a été signalé en 2009 dans l'inventaire de Madame Nadai Koutsinas et par la suite exploité et publié par Jean-Marie Saint-Jalme, cette liste, en numéro 7, indique donc le temple de Mitra avec tout ce que Edmond a trouvé, et il ajoute à la série des statues deux vases en or, dont on n'a jamais entendu parler autrement. Donc, le dossier des archives nationales regroupe des documents et plomb, liste et une lettre datée du 4 octobre 1891. Edmond, malgré la surveillance des autorités ottomanes, n'avait pas renoncé à poursuivre la fouille du Mitréum en profitant de l'édification d'une église grecque catholique. Et il l'assurait, c'est la seule combinaison qui puisse me permettre d'achever le déploiement du temple sans attirer l'attention de l'autorité locale, ce qui voulait effectivement profiter des travaux de construction pour faire des puits et passer dessous. Mais avec la production, donc il veut fouiller sans attirer l'attention de l'autorité locale, mais avec la protection du ministère de l'Instruction publique français, afin d'assurer au Louvre ou à un autre musée national la possession de tous les monuments que ce temple doit encore contenir. Un plan annoté par Edmond indique les emplacements des puits et des tunnels qu'il a creusés, donc avant 91, pour accéder au temple qu'il localise. Alors voici le plan que j'emprunte à la publication de M. Saint-Jalme, qui m'avait très aimablement donné les photos que j'utilise là, des documents qu'il avait pris aux archives. Et voici donc sur ce document le tracé des puits et des couloirs qu'il utilisait pour partir d'un endroit, je dirais, accessible et arriver au cœur de l'acropole. Et vous voyez ici l'emplacement du temple de Mitra et là l'endroit, le vestibule où il a trouvé les statues. Voilà, je vous donne un détail ici, l'espèce d'entrée où j'ai trouvé les 11 pièces. Donc voici la lettre que je vous souhaitais tout à l'heure et d'autres D'autres détails, parce que ce problème est immense, passage souterrain, pratiqué du jardin limitrophe par moi dans mes fouilles antérieures. Donc il avait bien truffé tout l'emplacement, qui doit se trouver maintenant sous l'église grecque catholique. Et M. Saint-Jean, d'ailleurs, a beaucoup fait de recherches pour essayer de le situer précisément. La proposition d'Edmond est restée sans suite, parce que plus personne ne lui faisait confiance. Et pour le moment, le temple n'a pas été retrouvé. Donc Edmond était l'objet d'une surveillance constante de la part des autorités ottomanes à Saïda. Ses courriers étaient surveillés, ainsi que ceux de ses frères. Et il a dû aller exercer ses talents de fouilleur clandestin en Galilée, notamment à Ezib, ou Arziv, qui est maintenant en Israël, où il a fouillé en 1889 plus d'une centaine de tombes, mais toujours sous la pression des autorités. Sa dernière, je dirais son ultime tentative pour fouiller en s'attirant la protection des institutions françaises, qui auraient donc demandé le permis officiel de fouille, a eu lieu à Boston-Escher, au sanctuaire d'Eshmoun, au nord de Sidon. Je vous montre une photo des lieux. Le site avait déjà été reconnu par son père Alphonse. Donc en 1900, et ça, on sait ça par une lettre alors absolument aussi étonnante qui est conservée aux archives des musées nationaux, qui est adressée à Philippe Berger, l'épigraphiste, à la fin juin, le 20 juin 1900. Et je résume parce que l'histoire est un peu longue. En 1900, donc Edmond avait entrepris dans des conditions apparemment très pénibles en raison de la concurrence et du climat insalubre qui régnait dans cette zone de marécage le long du fleuve Al-Wali, l'exploration du sanctuaire d'Eshmoun à Boston-Escher, où des ouvriers extrayaient des pierres d'un mur antique sur des terres appartenant à Nessim Djumblat. En les taillant pour les réutiliser, les ouvriers remarquaient des inscriptions qui se trouvaient sur les joints. Donc c'était déjà des pierres réemployées dans un mur. Et les ouvriers avaient donc prévenu un marchand et faussaire local, Béchara Goubrin, qui les avait acquis à vil prix en leur disant que ce n'était pas intéressant. Le but nettement, c'était d'obtenir sinon les blocs inscrits, du moins les estampages, afin de les communiquer à l'épigraphiste Philippe Berger, et par la suite, s'ils étaient reconnus originales et intéressantes, d'assurer à la France la possession du temple. C'est toujours la formule qu'il emploie. Mais pour y parvenir, il devait employer ce qu'il appelle la manière forte, revolver au poing. Il avait à son service ce qu'il appelle des ouvriers fouilleurs musulmans, mais il s'est lamenté de ne pas bénéficier du titre de consul, de vice-consul, dont le prestige lui redonnait les coups des franges dans ses recherches. Malgré tout, il nous dit qu'il a consenti à des sacrifices immenses pour servir la France. Je cite juste une petite phrase. « Depuis plus de 2 mois, j'ai passé toutes mes nuits blanches à la Belle Étoile, au point que je suis exténuée et malade, et cela pour surveiller des ouvriers infidèles ? Et pourquoi ? Pour assurer ma découverte à ma patrie. » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, je me dépêche. C'est qu'il n'a jamais obtenu la nationalité française. Donc, en réalité, la fouille a été faite officiellement par Makredibé pour les musées ottomans. Après 1901, nous n'avons plus aucune trace d'Edmond, qui était surveillé de très près, et donc ne pouvait plus agir, fouiller clandestinement dans la région de Sidon. Il a dû aller tenter sa chance en Égypte. Je finis aussi vite que possible avec le troisième personnage, c'est Joseph Ange, de son vrai nom Joseph-Jacques-Antoine, qui était le fils cadet d'Alphonse, né à Sidon en 1863, en novembre 1863, donc après la fin de la mission de Phénicie. Voilà quelques images, une image où il est déguisé en bédouin pour aller chercher une inscription dans le Golan et d'autres portrait fait autour de 1900. Bien qu'il s'en soit défendu, il est connu comme un marchand en affaires avec les grands musées et les collectionneurs d'Europe et des États-Unis. Il a commencé sa carrière dans sa ville natale auprès de son père, puis s'installa à Beyrouth en 1893. À partir de 82, il a effectué près grand séjour à Paris, où il a organisé tous les ans une vente confiée à la maison Serrure. Et il a vendu des objets au Louvre dès 1882. Dès 1895, il annonçait son intention de s'installer définitivement à Paris. Cette installation a été précipitée, semble-t-il, par la presse saisie en 1903, alors qu'il séjournait pour affaires à Paris, de tous ses biens, ses meubles, sa bibliothèque, qui était importante, ses vêtements, ses antiquités, ses papiers personnels dans son appartement à Beyrouth. On ne sait pas très bien comment cette affaire s'est passée, mais c'était une sombre affaire. Son frère Edmond le disait riche. Lui, Joseph, eut toujours à cœur de se poser en savant désintéressé et de se démarquer des antiquaires ou commissionnaires nombreux sur la place de Paris. Je vous cite aussi rapidement que possible cette petite lettre. « Je ne suis pas marchand d'antiquités », écrivait-il en 1887 à Euzet. « Je cède toutes les belles monnaies aux marchands de Paris pour pouvoir gagner quelque chose et continuer mes recherches. Je voyage continuellement. J'étudie les endroits anciens et tout ce qui regarde les antiquités et l'histoire ancienne m'intéresse beaucoup. Je voulais, lorsque j'étais à Paris l'année dernière, y demeurer pour être du nombre des étudiants de l'école du Louvre. Monsieur Ledrain le sait, mais je n'avais pas suffisamment les moyens d'y rester. Et si maintenant, cher monsieur, vous pouvez m'obtenir une bourse du ministère de l'Instruction publique, je serais très heureux d'étudier les langues orientales anciennes. Je sais très bien l'arabe, je le parle comme les arabes, je n'ai que 23 ans, et j'ai appris le français à Saïda, sa mère était française, je l'ai étudié pendant 2 ans seulement. À la fin de sa vie, lorsqu'il réclame avec insistance de figurer par les donateurs du Louvre, il raffermait cette position. « Si vraiment j'étais marchand, je n'aurais jamais rien donné à nos musées nationaux. » Et encore, « Non, je n'ai jamais été marchand, admettons-le. » Je vous montre en forçant l'allure, quelques objets qu'il a pu faire entrer au Louvre à la suite de ses fouilles. On ne sait pas grand-chose sur ses fouilles, parce qu'il avait annoncé qu'il allait publier son journal de ses fouilles en Syrie, et on ne l'a jamais vu. Mais donc, il a fouillé sans doute beaucoup à El Alié, et le Louvre possède plus de 150 terres cuites et objets de faïence provenant de ce site qui sont entrés en 1886. Je vous donne vite quelques exemples. Bien sûr, il a fouillé partout à Sidon, mais sans jamais donner vraiment d'explication. Alors là, je montre une très belle terre cuite là, que le Louvre a pu acheter en 1890, et aussi l'obélisque inscrit dédié au dieu Shalman que le Louvre achète en 1888, mais en 2 fois. Il avait d'abord envoyé l'inscription, et ensuite il a proposé, par un dessin, la base. Et pour exporter la base, il a eu un permis d'Hamdi Bey. Suivante. Alors, un autre point, c'est la fouille de la nécropole d'Aya et les deux Righello. À un moment, j'avais pensé à la lecture de la lettre, de la relation du père Rousseau, de leur visite des fouilles à l'endroit où Alphonse avait trouvé 2 sarcophages dits inscrits. Et Alphonse avait demandé par la vigerie de ne rien dire du tout de cet emplacement qui devait rester secret. J'avais un peu pensé qu'Alphonse avait supputé qu'il y avait Aya, un lieu intéressant à fouiller. Mais cette hypothèse ne repose pas sur grand-chose. Ce que l'on sait, par une lettre du 16 mars 1887 de Joseph-Ange à Euzet, c'est que mon frère Edmond entreprenait des fouilles aux environs de Saïda, sous le village d'El Alié. Il a découvert une grotte où se trouve un superbe sarcophage en marbre de l'époque romaine, à 3 rangs de bas-relief, très bien exécuté. On voit les figures coloriées. Le gouvernement a pris cette nouvelle, a pris possession du sarcophage et du terrain et a entrepris des fouilles, le terrain appartenant à un musulman. Et depuis une semaine, le gouvernement a découvert 4 grottes où il se trouve 8 sarcophages en marbre, dont 2 sont plus beaux, énormes comme grandeur, toutes les figures coloriées. On voit des scènes que je n'ai jamais vues dans aucun musée d'Europe. Et il conclut, ce sont des tombeaux d'une famille royale. Je ne crois pas que notre musée du Louvre possède d'aussi intéressants, de l'époque romaine. Et il précise aussi, j'écris aujourd'hui à notre ministère de l'Instruction publique pour lui apprendre cette découverte si riche. Le 18 mars 1887, Joseph Ange dit, j'ai l'honneur de confirmer la découverte de la nécropole royale à Saïda. Et il revient à la charge encore de nombreuses fois en adressant des rapports à ce sujet au ministère de l'Instruction publique pour essayer d'obtenir une mission. Je voudrais quand même dire quelques mots d'une lettre envoyée par une personne aussi honorable que Léon Heuzé à son directeur le 8 juin 1887. J'ai déjà reçu de mon côté plusieurs lettres de M. Duriguello m'annonçant l'importante découverte faite dans la nécropole de Saïda. Seulement, dès que l'autorité turque et le directeur des antiquités en Turquie, Hamdi Bey, ont mis la main sur les fouilles, il n'y a aucune espérance d'en tirer parti pour nos musées. Je crois donc inutile d'envoyer un conservateur sur ce point, ce serait peine perdue. L'administration sait combien les négociations avec la Turquie pour les autorisations de ce jour sont devenues difficiles, même pour des fouilles beaucoup plus importantes, et déjà commencé par des missions françaises. Je me suis contentée de demander à M. Duriguello de tâcher de nous procurer quelques objets intéressants provenant de la sépulture récemment découverte. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à faire. Beaucoup de terres cuites acquises par nous dans ces derniers temps doivent provenir de cette même nécropole sidonienne. Voilà, et cette lettre, ces affirmations ont déclenché la fureur de Hamdi Bey, qui ne voulait pas qu'on dise qu'il y avait eu des fouilles. Des fouilles clandestines dans ces fouilles. Mais apparemment, avant l'arrivée. Écoutez, je ne peux plus m'en servir, je ne sais pas comment ça marche. Rien. Le Louvre avait acquis un chapelet en faïence qui, manifestement, venait des fouilles. Dernière chose aussi, on avait à un moment soupçonné Joseph Ange d'avoir été à la tête d'une officine de faussaires qui fabriquaient des faux bronzes. En fait, c'était un de ces bronzes des montagnes du Liban, dont l'authenticité a pu être prouvée dernièrement par comparaison avec un bronze qui était conservé dans le cabinet de curiosité du comte de Caylus. Je me vois dans l'obligation de conclure vite. Il convient donc d'évaluer l'action des Duriguello dans la recherche archéologique à Sidon. Alors, sont-ils des pionniers de l'archéologie ou des chasseurs de trésors? Je dirais et l'un et l'autre. À l'évidence, Edmond était un chasseur d'antiquités, sans foi ni loi, ne respectant rien. C'est un grand spécialiste des fouilles clandestines, ce dont il était très fier, qui se plaçait aux machinations les plus ambiguës. C'était un caractère très bizarre, sans doute un peu dérangé, méchant, disait son frère, mais il ne manquait ni d'audace ni de courage. Cependant, lui, il a fortement contribué à la mauvaise réputation qu'a pu avoir la famille Duriguello. D'un autre côté, il faut reconnaître que les Duriguello ont beaucoup enrichi, directement ou indirectement, les musées, et particulièrement le Louvre. Près de 500 objets sont entrés au musée, du musée du Louvre sont passés entre leurs mains, dont 320 pour le seul département des Antiquités orientales. Bien sûr, ce sont des objets achetés, sans indication sur les provenances précises et les contextes de découverte. Mais il faut replacer ce genre d'achat dans les conditions de l'époque. Perrotier et même Renan ne faisaient pas autrement. Ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient vraiment animés par la passion de la recherche des antiquités. Étienne Michon, conservateur au département grec et romain, a loué le désintéressement de Joseph Ange, qui lui aimait à se dire explorateur. Et Michon dit « battant le pays à la recherche d'antiquités à acquérir, mais sinon marchant avant tout, en curieux si l'on veut, dont la grande joie était de trouver et qui mettait tout son plaisir de la chasse à l'objet. » En conclusion, je citerai encore Reynac, qui termine son article sur cette famille. Il serait très intéressant de préciser, alors que la France a repris l'exploration archéologique de la Syrie, le rôle exact des pionniers antérieurs qui n'ont pas toujours été reconnus à leur juste valeur. Voilà, excusez-moi, c'était trop long.